Bonsoir, merci d'être venu pour cette rencontre avec Olivier Norek, l'auteur de trois romans dans l'ordre Code 93, Territoire et le dernier et le plus gros, sorti récemment, Sur Tension. Olivier Norek, votre lieutenant de police judiciaire, je suis toujours perdu dans les rôles, dans les trucs. Ça fait 30 ans que je lis du polar, j'y arrive toujours pas, c'est terrible, tout comme les différences entre les armes. Lieutenant de police depuis 15 ans, qui a commencé à écrire des livres, qui a commencé à être publié il y a 3 ans, ça se trouve que ça fait plus longtemps qu'il a écrit, c'est une question qu'on lui posera. 3 livres plus une participation à la 6e saison d'Engrenage. 4 ans, donc ça fait quand même du travail assez régulier. Et puis, roman extrêmement intéressant qui se passe dans le 9-3, donc il y a de la matière. Mais voilà, donc on parlera de tout ça. Avant, j'aimerais bien que vous reveniez sur votre parcours atypique. C'est pas un pur parcours produit judiciaire, je trouve, quitter le cursus scolaire à 17 ans, tout ça. Moi, ça m'a dit quand j'ai rien, parce que je connaissais pas du tout Olivier Norek. Je vous raconte ma vie qui est parfaitement intéressante. Mais la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet et quand j'ai lu le parcours, je me suis dit ah, je sais pas pourquoi. Tout de suite, je me suis dit d'entrée de jeu, il a l'air sympathique.
Alors, oui, c'est vrai, c'est un parcours assez particulier. Moi, j'ai eu 5 sur 20 au bac français, donc à la base, je n'étais pas vraiment fait pour écrire. Mais comme l'année d'avant, on m'avait déconseillé les matières scientifiques, je me suis retrouvé un petit peu perdu à 17 ans. Et puis surtout, j'avais envie de faire quelque chose d'utile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis au grand dam de mes parents. Je suis parti faire des missions humanitaires à travers le monde. Donc, j'ai bossé en Guyane, mais j'ai bossé aussi en ex-Yougoslavie, sur les zones de front, enfin à côté des zones de front, parce qu'on n'avait rien à faire sur les zones de front, à côté des zones de front, dans les camps de réfugiés, dans les hôpitaux, pour apporter des médicaments et du matériel médical. Et c'est là que j'ai découvert que je serais totalement épanoui si je trouvais une activité qui était tournée vers les autres. C'est pour ça que, bizarrement, je me suis tourné vers les flics. Alors, on a plutôt l'impression que c'est répressif, alors que, bon, le métier de policier est vraiment dans la prévention. Donc voilà, c'est après ces missions militaires et puis aussi après l'armée, j'ai fait 2 ans d'armée que j'ai réalisé que vraiment le travail dirigé vers l'autre était quelque chose qui me rendrait heureux, qui m'épanouirait. Donc je suis devenu flic, gardien de la paix. Et puis ça m'a un peu fatigué de recevoir des ordres, donc j'ai décidé de pouvoir en donner, donc j'ai passé le concours de lieutenant. Paris 93, commissariat, police judiciaire. J'ai bossé chez les mineurs, j'ai fait du stup, j'ai fait de la crime. Et mon dernier job, c'était la section enquête et recherche, où j'étais spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon, les braquages avec coffre, les tentatives d'homicide et les agressions sexuelles. C'est pas très glamour, mais c'était mon job. Et puis un jour, un concours de nouvelles qui arrive sur mon ordinateur. Je décide d'écrire une nouvelle. Alors le site c'était auféminin.com, donc ils étaient persuadés quand j'ai écrit ma nouvelle et que je leur ai envoyé, vu qu'elle était anonyme, que j'étais une femme. Non, j'étais un vieux bonhomme de 40 berges, officier de police dans le 93. Et donc sur place, il y avait une chasseuse de talent qui m'a dit que si je gardais la sensibilité avec laquelle j'écrivais, mais que je racontais mon parcours de flic sur le 93, on pouvait avoir un bouquin assez intéressant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire la nuit Code 93 et travailler le jour. Donc pendant environ 9 mois, j'ai dormi 3 heures par nuit. Et puis le livre a reçu de belles critiques du public. Et donc je me suis décidé à écrire le second, et pour ça je me suis mis en disponibilité, ce qui fait qu'en fin de compte ça fait 3 ans que je ne suis pas retourné sur le terrain, un peu plus, 3 ans et demi. Voilà, et puis après Territoire, j'ai été contacté par une boîte de prod qui s'occupait de la série Engrenage. Après j'ai travaillé avec Yves Régnier pour faire un film qui est passé sur France 2, c'était La Traque de Guy Georges, c'est passé il y a 2-3 mois. Et puis après j'ai écrit Sur Tension, et maintenant je travaille sur Code 93 pour en faire une série. Mon premier roman pour faire une série de 6 fois 52 minutes. Voilà en gros l'actualité et mon parcours.
Bah voilà, bah il a tout dit. On peut rentrer chez nous.
Merci, au revoir.
Bah vous m'avez expliqué un petit peu, voilà, c'est cette chercheuse de talent qui vous a proposé d'écrire sur votre parcours. Et moi, j'ai une question qui est toujours assez classique. Quand c'est des professionnels de la profession qui écrivent des bouquins de leur profession, je me dis, purée, l'écriture, ça doit être un moyen d'évasion. Donc, vous êtes tous les jours en train de vous taper des trucs et puis vous réécrivez ça le soir. Pourquoi pas écrire, je ne sais pas, de la poésie ou des histoires d'amour qui se passent aux Bahamas entre un architecte et une infirmière.
Voilà, bah, pourquoi, je crois que c'est déjà pris par Musso et Lévy, les infirmières et les architectes aux Bahamas.
Ah, mince.
Et alors pourquoi du polar?
Ouais, pourquoi du polar alors que vous êtes dedans, quoi? Alors que justement, on pourrait se dire l'écriture, c'est un moyen de s'évader, et là, ça vous replonge dedans.
Bah, peut-être d'abord par facilité, parce que je connais l'univers, je connais les personnages, je connais les crimes, je connais les délinquants. Donc c'est rassurant, c'est quelque chose que je connais. Et puis la procédure judiciaire accompagne en fait, il y a un meurtre, il y a un flic, il y a une traque, et on arrête cet assassin. Ça peut paraître aventureux, mais en fin de compte, tout ça est tenu par la procédure judiciaire. Dès qu'il y a un meurtre, on doit faire un procès-verbal. Dès qu'on a identifié la personne, on fait un procès-verbal. Quand on va l'arrêter, quand on va faire la perquisition, l'interpellation, tout ça est tenu par la procédure judiciaire. Et donc, en fait, j'ai réalisé que j'avais déjà un canevas pour mon histoire. J'avais déjà un garde-fou, quelque chose qui devait me mener d'un point A, le meurtre, jusqu'à un point B, l'arrestation du criminel. Donc, je me suis décidé à écrire des polars. Bah, déjà parce que c'était la commande qu'on m'avait faite. Vous êtes flic, écrivez un polar. Et puis, secondement, parce que ça me plaisait. Mais rapidement, j'ai vu que ça allait pas vraiment me satisfaire. C'est pour ça que j'ai décidé, dans les autres romans, de pas faire la fameuse chasse au criminel. Dans tous les polars, il y a un meurtre, il y a un flic, et c'est le flic qui va chercher le criminel. Dans Territoire, c'est l'histoire d'un braquage d'État, c'est l'histoire aussi de dealers, c'est l'histoire de collusion entre politiques et délinquants. Alors il y a des meurtres évidemment, mais ça n'est pas que ça, c'est plutôt la traque de ce qui va devenir les braqueurs qui ont commis le casse le plus dingue de l'histoire de France, et comment ce casse va générer des émeutes, et comment mes flics vont devoir enquêter sur des braqueurs en plein milieu d'émeutes. Donc c'était une autre manière de vous présenter le travail des flics de l'APJ, et pas tout le temps de présenter des flics qui traquent un criminel. Dans Surtension, c'est une évasion de prison, et donc là, on va traquer cinq personnes différentes. On a un pédophile, un assassin, un kidnappeur, un ancien légionnaire serbe et un braqueur de bijouterie. Donc vous avez aussi cinq types de procédures judiciaires différentes et cinq manières d'aborder le job de flic. Donc voilà, j'ai décidé d'écrire du polar parce que c'est multiforme et parce qu'on peut toujours se renouveler, et c'est surtout parce que j'ai 15 ans d'histoire de police judiciaire dans mes bagages et que j'ai raconté à peu près un centième de ce que j'ai en tête et de ce que j'ai vu. Donc j'ai assez de biscuits, comme on dit chez les flics, j'ai assez de biscuits pour encore faire plusieurs fournées.
On reviendra tout à l'heure sur Cost. Mais juste une petite question, parce que vous dites que maintenant vous êtes mis en disponibilité. Mais
C'est
je sais
ça.
pas, je vous sens bien comme Cost quand même, le mec qui a besoin d'aller au taf. Alors ça vous manque pas trop quand même
Si, si, ça me manque
Hein?
énormément. Il y a deux choses qui me manquent. La première chose, c'est l'équipe, parce que j'ai bossé pendant 15 ans avec une équipe, presque une famille. Donc on a eu peur ensemble, on a espéré ensemble, on s'est planté ensemble et on a réussi ensemble. Mais on a une sorte de lien indéfectible entre nous, parce qu'à un moment donné, on a pu être en danger de mort. Et donc il y a vraiment ce lien que peuvent trouver, par exemple, les soldats qui sont allés au front. On n'a pas besoin de se voir pendant tous les jours, on ne se voit pas pendant 10 ans, et puis après ça va repartir. On est vraiment quelque chose qui pourrait s'approcher d'une famille. Et après, j'ai découvert que l'adrénaline était une vraie drogue, et j'en suis en manque, effectivement. Donc c'est vrai que je suis assez instable ces temps-ci, je bouge beaucoup, je parle très vite, je sens que je suis en manque de quelque chose.
C'est ça.
Donc ouais, le job me manque un peu, mais après je sais ce que c'était, je sais ce que c'est, j'ai fait à peu près tout le spectre de la criminalité. Il y a que deux trucs que j'ai pas fait, c'est le terrorisme et l'assassin en série. Sinon, le reste, j'ai fait des violeurs en série, j'ai fait un cannibale, j'ai fait une sorcière, j'ai fait un chien mangeur d'enfants, enfin j'ai fait tout ce genre de choses. J'aurais l'impression de me répéter. Je suis content d'avoir réussi à partir de ce job juste avant d'être un peu fatigué, cassé ou aigri. Je pense que je suis parti au bon moment, au bout de 15 ans, c'est la bonne période.
Ouais, partie, du coup, ça veut dire que...
Bah, pour l'instant, je voulais écrire des bouquins, donc ça c'est fait. Je voudrais en écrire d'autres. Je voudrais maintenant faire ma série et mon film. J'ai fait un téléfilm que j'ai scénarisé. Maintenant, j'aimerais bien faire une série et un film. Et après, là, je réfléchirai sur mon avenir. J'ai 10 ans de disponibilité, donc autant vous dire que j'ai le temps
Et
de
vous avez
réfléchir un
une
peu.
liste? Ça, c'est fait. Je peux
C'est
passer
ça,
à autre chose. C'est-à-dire que quand
j'ai...
c'est fait, il faut passer à autre chose.
C'est ça, j'ai une liste, j'ai une to-do list que je check, et autant professionnellement que personnellement, il y a des choses que je veux faire dans ma vie et ça en fait partie, ouais.
Est-ce que cette dispo a modifié votre vie? Parce qu'il y a une belle phrase de Johanna dans Territoire qui dit: c'est le drame de nos vies, on consacre nos journées, nos nuits à aider de parfaits étrangers sans être capable de faire attention à ceux qui nous sont proches. Je me suis dit, ça sent quand même le vécu. Et est-ce que vous,
Ouais.
le fait de cette dispo, voilà, ça... Après, c'est votre vie perso, on n'est pas obligé d'en parler.
Oui, non, non, bon, alors, moi, ça me dérange absolument pas. J'ai pas de vie perso.
Hein.
J'ai des parents qui sont dans l'Aveyron et sinon, voilà, c'est tout. Donc, moi, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas d'enfants. Donc, en fin de compte, ça me concernait pas trop. Je faisais surtout parler de Johanna pour faire parler aussi ces flics qui tentent de garder une famille malgré 10 à 14 heures par jour dans le 93. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est possible. Mais c'est un peu aussi le cas de Coste. Coste, c'est un solitaire. C'est mon flic, Coste. C'est un solitaire et il est capable de donner tout, tout son temps, toute son énergie, toute sa passion et même de se mettre en danger pour de parfaits inconnus qui sont les victimes. Mais quand il s'agit de tomber amoureux ou quand il s'agit de construire vraiment quelque chose pour lui, il en est incapable. Donc voilà, c'est ce genre de personnage un peu cassé que j'ai mis en place. Mais qui n'est pas que ça, évidemment, c'est un personnage solaire. J'ai eu un petit problème moi, avec ces flics. Bah, peut-être que je vais
Non,
rebondir sur des questions que tu as
non,
posées.
non, tu arriveras.
Mais quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu un petit problème avec la présentation des flics qu'on nous faisait. Il fallait obligatoirement qu'ils soient alcooliques, cocaïnomanes. Si en plus leur petite copine pouvait être une prostituée, alors là c'était parfait, on avait le tableau entier. Et c'était pas du tout ce que je vivais. Et je me suis dit que si j'avais l'occasion d'écrire un livre, j'essaierais de replacer le flic de maintenant comme il est, c'est-à-dire un type normal, ordinaire, qui a un métier extraordinaire et dont le quotidien est ce que l'homme recèle de pire en lui. Alors effectivement, ça nous égratigne un peu, ça nous fait un caractère un peu plus dur, on a un peu moins confiance en l'autre, mais on n'en est pas non plus des flics à la Marshall. Alors j'ai strictement rien contre Olivier Marshall, mais c'est vrai qu'ils présentent toujours les mêmes flics tellement torturés qu'on se demande comment ils font pour mener à bien leur enquête. Chez nous, les flics, c'est plutôt des sportifs de haut niveau, c'est des types qui vont avoir un quotidien tellement difficile qu'il faut qu'ils aient eux-mêmes un ciment. Alors c'est le ciment familial, c'est le ciment de l'amitié, mais il faut qu'ils aient quelque chose qui les fasse tenir droit, qui leur tienne la tête hors de l'eau. Donc voilà, j'ai voulu présenter ces policiers solaires hein, qui sont l'oxygène de mes romans.
Ah bah justement, Coste, héros récurrent dans les trois. On se dit bah voilà, il y a votre parcours, il y a Coste et tout. Donc la question classique, il y a combien de différences, pas au millimètre près, mais voilà, est-ce que Coste il est vraiment très loin de vous? Est-ce qu'il est quand même plutôt assez proche? L'impression qu'il vous ressemble par moment.
Ouais, il me ressemble un peu. Bah, niveau flic, il a la même morale que moi, c'est-à-dire que moi, mon seul moteur, c'était la victime. Beaucoup de policiers n'ont qu'un seul but, c'est d'arrêter de beaux criminels. Moi, c'est pas ça mon intérêt. Mon intérêt, c'est de rétablir une situation d'injustice. Donc, en ce sens, Coste, il est comme moi. Il a cette facilité aussi à savoir mettre de côté le code pénal quand ça va dans l'intérêt de la victime. Il a une phrase qu'il répète souvent et dit: il y a ce qui est juste de faire, et il y a ce que le code pénal te dit de faire, et généralement, ça va dans le même sens. Mais quand ce qui est juste de faire sort du code pénal, alors il va falloir que toi aussi tu sortes du code pénal et c'est là où tu vas découvrir quel genre de flic tu es. Et c'est vrai que dans ma carrière, sur 15 ans de flic, il m'est arrivé effectivement de franchir la ligne jaune pour le bien de la victime. Il n'y a pas à en être fier ou pas, c'était effectivement des choses que j'ai faites qui étaient illégales, mais c'était jamais dans un enrichissement personnel, c'était toujours dans le bien de la victime parce que je savais que c'était nécessaire pour elle. Alors malheureusement, je ne peux pas trop m'étendre plus que ça puisque c'est enregistré. Mais voilà. Maintenant,
On
Coste.
peut couper là.
Maintenant, Coz, voilà, c'est un type solitaire qui comprend pas, qui arrive mal à comprendre le concept de vivre à deux. C'est quelqu'un qui se sent très bien tout seul. En ça, il me ressemble plutôt aussi. Et puis, voilà, il a la quarantaine, les cheveux gris et les yeux bleus.
Voilà.
Mesure 1,90 m, mais je fais ce que je veux.
Ah.
Et puis voilà. Ouais, c'est vrai qu'il est assez proche, mais je pense qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas beaucoup d'auteurs dans leur premier livre qui s'éloignent beaucoup de leur personnage. Pour que ça ressemble à du vrai, il faut que ce soit vrai. Donc c'est pour ça que je m'implique énormément dans mes personnages et qu'on retrouve beaucoup de moi dans mes livres.
Ouais, et puis il n'y a pas que lui, c'est l'avantage aussi. C'est pas la série, elle n'est pas centrée sur Cost. Il y a vraiment
À
tout le monde
nouveau,
autour.
à nouveau, dans la plupart des romans, dans la vieille école, c'est le flic tout seul, le loup solitaire qui va tout faire tout seul. Donc moi je sais que c'est faux. C'est pour ça que je mets une équipe très solide autour de lui. Et donc c'est pas Cost qui va résoudre l'affaire, c'est Cost, Sam, Ronan et Johanna. C'est vraiment une équipe soudée et on comprend mon flic dans son équipe. C'est comme ça qu'on peut l'approcher en tout cas.
Vous parliez de Marshall tout à l'heure, et j'ai l'impression que voilà, depuis Marshall, on voit une nouvelle auteur, une nouvelle école d'auteurs de romans policiers qui sont du métier. Voilà, moi j'ai grandi avec Hugues Pagan, il y avait ce côté qui
Ouais,
était d'un côté, il y avait Pagan,
j'ai
quoi,
travaillé
voilà,
avec lui.
qui incarnait le truc, voilà, et qui à mes yeux un écrivain absolument admirable dont le métier, je ne l'ai jamais côtoyé. Et d'un autre côté, on a l'impression qu'il y avait les mecs qui avaient gagné le prix du Quai des Orfèvres, quoi. Donc c'était.
Hyper procédural,
C'était très procédural. Grosso modo, le prix du Quai des Orfèvres, on gagne si on est vraiment très procédural, qu'importe l'écriture. Et ça se sentait bien. Et on a l'impression qu'au milieu, il n'y avait strictement rien. Et là, depuis Marshall, moi j'ai fait une rencontre il n'y a pas longtemps avec Laurent Guillaume. J'ai l'impression qu'il y a toute une nouvelle génération d'auteurs, de gens qui viennent du métier, qui suivent la procédure. Mais qui écrivent bien quand même et qui, justement, comme vous le dites, qui amène une nouvelle vision aussi du flic. Voilà, c'est plutôt un mec tortueux,
C'est l'intérêt, oui, c'est vrai que c'est l'intérêt de prendre des bouquins faits par des professionnels. En fait, on passe un contrat, quand vous achetez un Fred Vargas, vous passez un contrat avec Fred Vargas, vous savez qu'il y aura pas une bribe de procédure et que rien ne va tenir droit, en tout cas au niveau police. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de nous représenter à nouveau Adamsberg avec Camille et ses errements et ses atermoiements, et c'est ça qui est drôle. Quand vous prenez un bouquin par exemple, de Laurent Guillaume ou de Daniel Thiry, qui sont des
Ah,
policiers,
super bien, super bien.
là, vous êtes sûr que le contrat que vous allez passer, c'est un contrat complètement différent. Vous êtes vraiment dans une vraie enquête de police et c'est comme ça qu'on enquête. Vous êtes dans la poche de l'enquêteur. Et voilà, c'est un peu la différence entre, pour parler des séries, c'est un peu la différence entre Engrenage et Braco. Engrenage, c'est très, très, très procédural. Ce sont de vraies histoires, enfin, c'est tiré de faits réels. Alors que Braco, les flics roulent en Porsche Cayenne et crèvent les gens des. Crève les yeux des gens pendant les auditions. Bon, voilà, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, ne le faites pas. Mais ce que je veux dire, c'est que y a différents contrats, il y a différents polars, il y a différentes littératures, mais c'est vrai qu'il y a un renouveau du polar français. Et là, je vais faire de la pub pour les copains. Donc oui, il y a Laurent Guillaume, il y a Daniel Thiry, mais il y a aussi Barbara Abel, Maud Maillerasse, Claire Favant, Nicolas Lebel, Jacques Sausset. C'est vraiment voilà, c'est une nouvelle école du polar qui réussit à mélanger les horreurs qu'on trouve dans le roman noir ou dans le thriller avec une certaine littérature. J'ai eu la chance de passer il n'y a pas longtemps à la Grande Librairie et Bunel a fait une révérence au polar que j'ai beaucoup apprécié. Il a dit le polar c'est de la littérature avec un grand L et que c'est vrai qu'on est loin de ces pseudo-romans de gare. Mais voilà, il n'y a pas encore si longtemps, le polar c'était déjà de la littérature avec Simenon. Donc qui va me dire que Simenon, Dantec, Agatha Christie, c'est pas de la littérature? Donc voilà, peut-être qu'il y a eu un moment donné de flottement, mais en tout cas, le polar revient en force dans la littérature.
Ah oui, non, le flottement, c'était vraiment, c'était des mecs effectivement, qui écrivaient comme des pieds, c'était effroyable. Parlons d'écriture. Comme je disais en introduction, trois bouquins, plus la série d'Engrenage. Bon, je vous sens bien speed, donc je me doute comment vous tenez le rythme, mais parce que vous êtes très vite, donc on écrit vite. Mais voilà, comment vous tenez ce rythme? Parce que derrière, je suis allé regarder un petit peu votre Facebook, et donc il y a la partie écriture, après il y a la sortie, et vous tournez un petit peu partout. On sait très bien que quand les auteurs tournent, en général, ils écrivent pas, sauf quand ils font beaucoup de trains avec leur portable. Je vous ai vu avec
C'est ça.
votre Mac, donc je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose. Mais voilà, c'est quoi votre rythme écriture? Comment ça s'organise?
Quand j'étais flic, je travaillais entre 10 et 14 heures par jour, payé 8, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc j'ai toujours énormément bossé. Et puis, je suis pas un vieil homme, mais c'est quand même ma deuxième vie. J'ai 40 ans, je commence quelque chose de nouveau. Il faut du temps pour s'installer, du temps pour faire une série. Ne serait-ce que le film que j'ai fait avec Yves Régnier, ça nous a pris 2 ans. Donc c'est énorme. Là, si on commence la série Code 93, ça va nous prendre 2 ans aussi. Donc c'est vraiment des projets à long terme. Je pourrais pas en faire énormément. Je pourrais en faire une dizaine peut-être, une quinzaine maximum. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai une certaine urgence de vivre, une certaine urgence de créer, de réaliser. Et donc j'essaie de perdre le moins de temps possible. Donc je me lève à 6 h le matin, je bosse une dizaine d'heures par jour, et si jamais je suis en déplacement, je prends toujours mon portable et je travaille dans le train. Parce qu'il faut créer, il faut que je laisse des choses derrière moi, c'est obligatoire. J'ai l'impression que j'ai un timer qui me dit que le temps m'est compté, donc je me dépêche.
Bon, 40 ans, il nous reste du temps encore.
Oh, il me reste beaucoup de temps, mais il ne me restera jamais assez de temps pour faire tout ce que je veux faire.
Comment ça s'est passé justement le engrenage? Et c'est quoi la différence entre écrire un roman plaisir solitaire, plaisir ou pas? Des fois, ça peut être compliqué. Mais voilà, travail solitaire où vous maîtrisez tout, et puis derrière le côté série où là, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et plein de gens qui viennent vous dire ci et ça.
Ça, écrire un bouquin, on se triture énormément au niveau des méninges. C'est très personnel. moi, et ce que j'ai envie de dire. Quand on écrit un scénario, alors déjà, généralement, on n'écrit pas tout seul, on a un co-scénariste quand c'est des séries. Donc déjà, il y a deux cerveaux, il faut que ça marche dans le même sens. Ensuite, il y a une boîte de prod qui, elle, veut présenter tel produit à France 2, tel produit à TF1. Donc il faut faire en fonction de cette boîte de prod qui ensuite va le passer à la chaîne. La chaîne, elle, va aussi avoir des desiderata. Par-dessus tout ça, on a un directeur artistique qui, lui aussi, met son grain de sel. Ce qui fait qu'en fait, sur une même idée, on est une quinzaine. Et donc c'est beaucoup, 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 énormément de diplomatie. Et c'est du travail qu'on remet à chaque fois au lendemain, qu'on recommence à chaque fois. Donc pour un bouquin, moi, généralement, je reviens pas spécialement sur ce que j'écris, à pas pour le peaufiner. Pour les scénarios, on peut arriver à la version 12, à la version 15, à la version 20. Donc ça prend énormément, énormément de temps, ne serait-ce déjà que pour apporter une proposition de projet. Une fois qu'elle est acceptée, après c'est l'écriture. La différence, la vraie différence, c'est que quand j'écris, quand un homme rentre dans une pièce, il faut qu'on sache ce qu'il y a dans sa tête, il faut qu'on sache comment est la pièce, comment il est habillé, est-ce qu'il a l'air fatigué, est-ce qu'il a l'air sain, est-ce que dans ses yeux, on lit de la peine, de l'angoisse. Quand on écrit un scénario, c'est beaucoup plus simple. L'homme rentre dans la pièce, il a l'air angoissé, la pièce est chichement meublée. Hop, voilà, vous avez fait vos trois lignes. Le reste, c'est pour
La
ceux qui
déco.
s'occupent de la déco, ceux qui s'occupent de la lumière. En fait, on laisse tout l'aspect visuel, c'est ça. On laisse tout l'aspect visuel à quelqu'un d'autre. Quand on écrit un bouquin, on s'occupe nous-mêmes de nos atmosphères, on s'occupe nous-mêmes de nos ambiances. Et toute cette partie-là, en fait, on la laisse aux professionnels de la déco, de la mise en scène, de la réal. Et puis on met de côté aussi la littérature. C'est pas la peine. Donc c'est vrai qu'on perd aussi quelques. On faiblit un peu en écriture à force d'écrire des scénarios parce qu'on n'a plus besoin de faire de belles phrases, on n'a plus besoin de faire de jolies métaphores, on a juste à mettre en place des situations. Donc ce n'est pas du tout le même travail, c'est un travail qui est beaucoup plus rapide et c'est un travail où on doit tout le temps penser, où on doit tout le temps penser à l'action et au visuel, alors que l'action et le visuel, en fin de compte, c'est pas nous qui allons les faire. C'est très particulier comme job.
La diplomatie, ça se passe bien?
La diplomatie, ouais, alors moi j'ai du mal avec la diplomatie. Enfin, si, je suis très diplomate en fin de compte, mais je dis des phrases diplomates et rassurantes, mais mon attitude fait que les gens n'y croient absolument pas. Donc je dis oui, d'accord, je le ferai. Et donc les gens sentent que ça m'énerve, par exemple. Mais je travaille sur moi. Je travaille sur moi.
Bon, allez, on rentre dans l'écriture, on entame un petit peu la série parce que voilà, tout le monde est speed. Il y a le train, il faut repartir, il y a un timing à tenir. Le 93, allez, parlez-nous du 93 qu'on voit un peu partout. On sent qu'il y a votre patte, il y a votre vision, c'est votre 93, quoi. C'est pas.
Bah, j'ai bossé pendant 15 ans, donc je le connais bien. J'ai malheureusement une vision du 93 qui est une vision compliquée parce que moi je suis de l'autre côté de la barrière, donc je travaille essentiellement avec des criminels et des délinquants. Donc c'est vrai que j'ai une vision du département qui est un peu compliquée. Mais je sais aussi ce qu'il est pour y vivre aussi depuis 15 ans. Voilà, le 93, c'est un département qui est très décrié, qui est victime des clichés, des préjugés, alors que c'est absolument pas ça. On a 2% de crétins, de délinquants qui mettent le bordel sur tout un département, mais on a 98% de bonnes personnes qui y vivent et qui essaient de faire comme ils peuvent. C'est un département qui est jeune, multiculturel, hyper riche. Je préfère vraiment un département comme le 93 plutôt qu'un département musée comme Paris où moi je m'ennuie. Voilà, c'est un département en fin de compte comme un autre. À part que malheureusement, il n'a pas de montagne, il n'a pas de mer, il n'a pas de rivière, il a juste des tours et des grandes cités et que c'est pas très très joli à voir. C'est un département aussi qui est compliqué parce qu'on y a repoussé au fur et à mesure du temps toute notre immigration, tous nos chômeurs, toutes nos classes très moyennes et qu'avec l'arrivée du Grand Paris, on va encore les repousser bien plus loin. Donc c'est un département aussi qui a une aura un peu d'exclusion, de revanche. C'est un département qui veut en remontrer. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Il est aussi plaisant qu'il est compliqué. Il est aussi accueillant qu'il fait flipper. C'est mon petit frère quand il est venu pour la première fois. Il y a tellement de préjugés sur le 93 que la première fois qu'il est venu dans mon appartement, il s'est servi un verre d'eau. Il a bu, il a recraché, il m'a dit, elle est potable. Donc voilà, c'était l'état des préjugés sur le 93. Voilà, c'est un département comme un autre. Il n'a pas vraiment de spécialité culinaire, malheureusement. Il n'a pas de super balade non plus. Voilà, c'est un endroit ouais, complexe, ça lui va bien. Complexe, ça lui va bien.
Alors sans dévoiler un peu tout ce qui se passe dans les romans, mais ce qui est bien, c'est dans les deux premiers, là, sur Code 93 et puis sur Territoire, on part d'un petit quelque chose, hein, grosso modo, mais un petit quelque chose. Bon, enfin, le Code 93, déjà, c'est pas anodin comme petit quelque chose, mais on arrive derrière à des trucs plus grand. Vous parlez du Grand Paris, mais on ne peut pas en parler. Je pense que ça, c'est des choses qu'on doit parler en off. Donc, comment vous construisez justement un peu voilà, tous vos romans? Parce qu'on a l'impression au point de départ, on dit, on va juste coller à la procédure, et puis derrière, ouais, il y a la prospective.
C'est
C'est
ça.
cool, ça.
En fait, avant d'écrire mon roman, je cherche quelque chose sur que je veux dénoncer. Pas par plaisir de dénoncer, mais parce que j'ai été flic pendant 15 ans et qu'il y a des choses qui, moi, m'ont freiné dans mon travail, des outils qui ont grippé mon travail. Donc, dans mon premier roman, j'ai décidé de parler du trafic des chiffres de la criminalité. Le problème qu'on est en train de rencontrer, c'est que Paris étouffe et donc il faut faire le Grand Paris. Et donc, on va mettre le 75, le 92, le 93 et le 94. 75, 92 et 94 sont trois départements très riches, et le 93, c'est un département plutôt pauvre. Et donc, évidemment, les investisseurs ne vont jamais rien faire dans le 93, ce qui fait qu'on va avoir en fait un département qui sera exclu, une sorte de zone de non-droit de la taille d'un département, qui risque effectivement de péter à toute minute avec des émeutes. Et donc, pour faire passer le 93 comme un gendre idéal, eh bien, ils n'ont pas trouvé mieux que de se dire qu'on allait faire baisser fictivement la délinquance de 25%. Et comment faire pour baisser effectivement la délinquance de 25%? Eh bien, on va décider que les mois feraient 3 semaines. C'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever le plus possible d'infractions qu'on va mettre à la benne, sur lesquelles on ne va pas enquêter, qu'on va mettre de côté. C'est ce qu'on appelait le code Q pendant plusieurs années. Les policiers, en découvrant ça, ont fait une levée de bouclier et depuis, ça n'existe plus. Mais ce code, il a existé. Alors, ça s'appelait le code Q, je l'appelais le code 93, parce que le code Q, ça faisait un peu. Voilà, les
On va
gens,
plus se tromper
il y
sur
aurait
le
une ambiguïté sur le
livre.
bouquin. Donc voilà, mais ça, ce sont des faits réels, ce sont des faits qui sont reconnus. Donc j'ai inventé une équipe de police qui va essayer de planquer des homicides pour faire baisser le chiffre de la criminalité. J'ai inventé un assassin qui regarde les policiers planquer son travail d'assassin et donc il va décider, par bravache, face aux policiers et pour bien d'autres raisons, de mettre en scène, de théâtraliser ces nouveaux homicides. Et donc arrive sur le 93 un assassin en série qui fait des meurtres complètement spectaculaires. Donc on a un type qui va se réveiller pendant sa propre autopsie, on a un toxicomane qui va être victime d'une autocombustion, on a un dealer qui va être vidé complètement de son sang comme s'il avait croisé le chemin d'un vampire. Donc voilà, ça c'est Code 93. Mais derrière, il y a un fond politico-social, il y a quelque chose que je veux dénoncer. Idem pour Territoire, quand j'ai réalisé ce que c'était que l'achat de la paix sociale dans le 93, quand j'ai réalisé qu'il y avait certains maires du 93 qui préféraient, au lieu de se battre contre sa délinquance, travailler avec la délinquance parce que c'est quand même plus facile. Donc on a les exemples de Serge Dassault ou de Paoli. Je pourrais vous donner comme ça une trentaine de noms de maires qui se sont accoquinés avec leur délinquance pour qu'en fin de compte, leur ville ne fasse pas de vagues et qu'ils soient réélus la fois d'après. Donc j'ai inventé une histoire autour de ça, qui est l'histoire d'un braquage, un braquage d'État, un braquage où les braqueurs vont gagner énormément d'argent. Ça va faire des jalousies en plein milieu des cités. Ces jalousies vont créer des émeutes et nos flics vont devoir traquer des braqueurs en plein milieu d'émeutes. Donc à nouveau une enquête qui va à 200 à l'heure, mais un fond politico-social. Et dans Surtention, mes deux derniers chevaux de bataille, c'était la pauvreté de la justice et le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans le milieu carcéral, c'est-à-dire que on a l'impression que mettre en prison des gens, ça suffit, alors que non. Alors pour nous, c'est notre seul outil de répression qu'on a, hein, c'est la prison. Sauf que c'est un outil qui est mal utilisé puisqu'on a oublié deux choses. On a oublié le concept de réinsertion, qui est capital, et on a oublié aussi que l'activité principale des prisonniers, c'était l'oisiveté. Ils faisaient strictement rien de leur temps de prison, alors qu'il serait quand même bien, bien, bien nécessaire pour leur permettre une réinsertion, de leur faire apprendre un job ou de leur faire passer des diplômes. Le problème de la réinsertion, c'est un problème qui est majeur, c'est qu'on met en prison quelqu'un qui a dérapé. Quelqu'un qui a commis un acte délinquant ou criminel, donc qui a dérapé dans la société. Donc on l'enlève de cette société, on l'enlève de sa cité, de son quartier, de sa région. On le met en prison dans un endroit qui est bien plus violent, bien plus inégal. Donc il va devoir s'envenimer un peu, il va devoir être plus fort. Et une fois que son temps est fait, sans qu'on lui ait appris le moindre job ou qu'on lui ait proposé la moindre réinsertion, on va le mettre exactement à l'endroit où il a dérapé. Donc comment on peut penser que ce genre d'outil puisse marcher? Et c'est pas pour rien que le taux de récidive en France dans les prisons est de 60%. 60% des gens qui vont aller qui sont allés en prison vont y retourner. Donc c'est un outil qui ne marche pas. Si vous avez une boîte privée par exemple et que vous inventez un appareil qui vous saute à la gueule 60 fois sur 100, vous savez que vous pourrez pas le commercialiser. Et ben pourtant c'est un outil et c'est le seul outil qu'on a à notre disposition, c'est les prisons. Voilà, donc j'ai voulu un peu faire un coup de gueule sur les prisons et puis aussi sur le manque de moyens de la justice, en tout cas sur le 93. Par exemple, sur le 93, il y a des affaires, les affaires de viol se jugent 6 ans après les faits. On a 10 000 affaires familiales qui sont en souffrance de jugement. On a tellement peu de juges pour enfants qu'il y a certaines villes qui n'ont pas de juges pour enfants. Et quand on sait que nous, notre petite délinquance, elle est essentiellement mineure, eh bien, il n'y a aucune réponse pour ces délinquants mineurs. Ils n'ont même pas de juges pour enfants. Donc voilà, ça, je voulais pointer du doigt. Ça, c'est le fonds politico-social. Et pour parler de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis en place une évasion de prison. Donc, en fin de compte, mon fonds politico-social, c'est juste un décor. C'est-à-dire que je ne vais pas être professoral ou vous expliquer comment ça marche ou justement comment ça ne marche pas. Je mets en place une opération de police ou une enquête de police qui va très très vite, c'est mené à tambour battant. Et derrière, il y a un fonds politico-social. Vous choisissez de le regarder, vous choisissez de vous y intéresser ou pas, ce n'est pas obligatoire. Ça fait juste partie du décor. Voilà.
Ça, c'est de la locution, hein. Ah, il va falloir reprendre quelque chose, hein. Oui, vous parliez là tout à l'heure des petits délinquants, donc vous en avez vu plein. Il y a le personnage de Blitz, son parcours, et
Bips.
ouais, c'est quelque chose. J'aimerais pas l'avoir comme voisin. Et la théorie mise en place par les ethnopsychiatres dont vous parlez, qui est super intéressant. Parlez-nous de ça un peu.
Ah, bah ça existe. C'est-à-dire qu'on a justement, c'est la violence des mineurs dont je parle dans le territoire.
Parlez-nous, présentez-nous un petit peu rapidement, un petit gars de Blitz. Un petit
Ouais.
Blitz quand même. Il
Alors
s'est
voilà,
fait
c'est
quoi, il a
ça.
lu les bouquins?
Donc justement, moi je parle dans territoire, je parle de la délinquance des mineurs, qui est une délinquance qui est vraiment importante. Et je parle d'un petit gamin qui s'appelle Bibbs, qui est né dans ces cités-là, qui est né dans la violence, qui ne connaît que la violence et qui a comme réponse que la violence. Il a été rejeté. Alors attention, il a été rejeté. J'ai le double discours. Hein. Je dis, il a été rejeté de l'enseignement, mais c'est lui aussi qui a pas ouvert ses cahiers de classe et qui s'est pas bougé pour travailler. Je dis ça avec d'autant plus de facilité que moi, je suis issu de l'immigration et que donc mon grand-père était mineur et qu'après mon père, lui, il a été énarque. Donc voilà, à un moment donné, on peut venir d'endroits difficiles et on peut aussi se mettre un coup de pied au cul pour réussir. Là, pour le coup, ce coup de pied aux fesses, il se l'est pas mis. Donc c'est un gamin qui a été rejeté et de la société et de l'enseignement, qui n'est pas soutenu par sa famille. Il a 12 ans, il ne connaît que la violence, il ne sait répondre que par la violence. Et c'est le cas de nombreux mineurs qu'on a sur le 93 qui ont été éduqués à la ceinture ou au coup de poing et qui ne connaissent que ça. Une affaire vraie, par exemple, moi j'ai connu un gamin qui, pour la première fois de l'année, avait révisé son cours d'histoire, mais il a quand même eu 4. Et ça, il n'a pas compris puisqu'il avait révisé pour la première fois, il s'attendait à avoir un 18. Donc la maîtresse lui a mis un 4 et il était tellement furieux qu'il l'a attendu à la sortie de l'école et qu'il l'a douché à l'acide chlorhydrique. Donc elle a littéralement, voilà,
Ça arrive dans un des.
c'est le final. Ouais. Enfin, c'est une phrase. Donc voilà, donc elle a littéralement fondu sur le parvis du collège. Et quand on l'a interpellé, ce gamin nous a dit, mais ça va, je l'ai pas tué. Pour lui, c'était pas si grave que ça. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fin de compte, une gifle sur le 93, c'est rien. Une gifle dans le 16e arrondissement de Paris ou dans les beaux quartiers de Bordeaux, ça peut être quelque chose. D'ailleurs, c'est quelque chose. C'est la cassure de la communication. C'est un tabou, c'est le tabou de la violence. Mais pour ces gamins qui sont nés là-dedans et qui ne connaissent que ça, une gifle, ça ne résout rien. C'est comme ça qu'ils se disent bonjour. Ils se disent bonjour en se mettant un coup de pied ou en se mettant un taquet derrière la tête. Ils se disent bonjour en s'insultant. Donc, il a fallu expliquer au jury que ce n'étaient pas des monstres. En fait, on a utilisé des ethnopsychiatres. C'est-à-dire que on a remis la violence dans le contexte de son éducation. Et c'est ce qu'on fait en fin de compte. On utilise des ethnopsychiatres quand on juge des enfants soldats en Afrique. C'est-à-dire que c'est des gamins qui ont 12 ans, 14 ans et qui ont déjà tué 50, 60, 100 personnes. Quand ils ont un problème ultérieurement, par exemple quelqu'un qui les insulte ou quelqu'un qui les violente, eux qui ont déjà tué 60 personnes alors qu'ils ont 12 ans, ils vont pas réagir en mettant une gifle. Ils vont réagir comme on leur a appris à réagir. Donc on a besoin d'un ethnopsychiatre, pas pour excuser, mais pour comprendre l'acte et pour comprendre que cet enfant n'est pas un monstre, mais que cet enfant, dans son contexte d'apprentissage, d'évolution, d'histoire, il a grandi comme ça. Il a grandi comme ça et il sait et ces successions de cassures psychologiques qui ont fait qu'il réagit comme ça. Donc voilà, une gifle sur le 93, une gifle sur le 16e n'a pas la même portée et n'est pas jugée de la même manière. La violence n'est pas jugé de la même manière. En fait, les gamins, en fonction de leur origine, qui viennent d'un pays en guerre ou d'un pays en paix, n'ont pas les mêmes curseurs de violence. Et j'estime qu'effectivement, un gamin qui est né dans l'ultra-violence, on peut considérer qu'il est né comme dans un pays en guerre.
C'est vraiment bien. Sur la cité, c'est un petit peu plus anecdotique, entre guillemets. Ben, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous avez fait plein de
plein de métiers différents, bon, plein de sections différentes dans votre métier. Ouais. Mais il y a le côté de l'intervention dans la cité qui dégénère. C'est hyper rapide, parce que vous voyez, il fait toujours des choses complètement speed, mais c'est du vécu, c'est... Là, vous êtes pendant 5 pages, là, vous êtes scotché, et ça part d'un petit, bon, ça part d'un gros boulon, entre guillemets, et ça se termine en émeute. Racontez-nous ça, parce que vous
avez... Oui, alors c'est à nouveau une histoire vraie, et c'est une histoire qui arrive souvent. C'est quand sur le 93, on part sur un problème de famille, ou alors du tapage nocturne. Les flics se déplacent dans une cité, dans une tour, ils pénètrent dans un appartement, ils règlent le problème, et puis à un moment donné, il y a un flic qui voit sur le côté un petit peu de shit, donc on commence la perquisition, puis on trouve 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 30 kilos, et on réalise qu'en fait on est chez une nourrice, ou alors qu'on est à l'endroit, à l'appartement de repli, qu'on n'a rien à y faire, qu'on est venu là pour des violences volontaires, ou alors on est venu pour du tapage nocturne, et on se retrouve en fait dans la planque où est toute la cam. Résultat, on sait très bien que, en étant dans cet appartement, toute la cité est déjà au courant que nous on est là, et ils ont aucune envie de nous laisser sortir vivants, parce que, ou en tout cas de nous laisser sortir avec la cam. Et donc on voit au fur et à mesure, on est au 15e, 20e étage, et on réalise que l'appartement c'est devenu un piège. Et on voit les gens s'approcher, on voit les gamins s'approcher, commencer à faire le tour de l'immeuble. Et on sait qu'on n'en sortira pas sans se battre. Et donc c'est ce qui se passe à un moment donné. Nos policiers sont appelés sur un homicide. Ils arrivent chez une vieille dame. Et là, chez cette vieille dame, ils commencent à essayer de comprendre comment elle a pu mourir. Et puis ils tombent sur un kilo de shit, puis une arme, puis de l'argent, puis d'un deuxième kilo, un troisième kilo. Et ils se retrouvent en fait chez une nourrice. Et ils regardent par la fenêtre et ils réalisent que toute la cité est au courant qu'ils sont dans cette maison-là et que personne ne les laissera sortir avec le matériel ou vivant. Donc voilà, ça fait partie de ces situations où à un moment donné, on se dit qu'on ne va pas rentrer entier chez soi. Ça m'est arrivé aussi une autre fois, c'était dans le 18e, il y avait eu deux gamins qui s'étaient tirés dessus, c'était des dealers de crack. Et nous, on arrive parce qu'il y en a un qui s'est pris une balle dans le poumon. Et quand on arrive, on voit qu'il y a du monde partout. Et le pompier nous explique qu'effectivement, il y a 400 jeunes d'un côté, 500 de l'autre. Et moi, je demande au pompier, mais alors, tu vas pouvoir le récupérer? Le type, il est en train de faire le massage cardiaque. Et il dit, ah mais non. En fait, il faisait un massage cardiaque, il y avait le sang qui partait sur le côté. Et il me dit très, très, très calmement, le type est déjà mort depuis longtemps. Mais si j'arrête de faire le massage cardiaque, les 400 et les 500, ils vont nous tomber dessus parce qu'ils sont persuadés que c'est les flics qui ont tiré. Et donc, en fin de compte, on est avec un pompier qui est en train de faire un massage cardiaque sur un cadavre, uniquement pour se sauver la vie et nous sauver la vie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis sur un brancard. On a dit, on est en train de le sauver, ce qui était faux. On est tous montés dans les camions des pompiers, et c'est comme ça qu'on a réussi à partir, parce que ça commençait déjà à pleuvoir, les boules de pétanque, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que parfois, on se retrouve dans des situations où on est complètement débordé. Et quand on est débordé sur le 93, c'est pas parce qu'il y a 6 ou 7 personnes autour de nous, mais on parle vraiment de milliers de personnes qui commencent à débarquer de toutes les rues, de tous les endroits. Avec des cannes de golf, avec des clubs de golf, avec des barres de fer, avec des battes de baseball. Et on sait très bien ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus là bouffer du flic. Donc voilà, je me suis retrouvé comme ça 3 fois dans ces situations-là. Et autant vous dire que le palpitant part bien, bien fort. Ouais.
Ah, c'est chaud. pour se détendre aussi. Alors, j'ai appris un truc, je ne comprends pas. Mais l'aéroport du Bourget, ah, ça oui. C'est bien ça, parce que moi je m'embête à prendre Air France quand j'ai des soucis, mais l'aéroport du Bourget c'est...
Surtout si tu veux faire passer de la cam ou de l'argent, ouais, c'est plutôt facile. En fait c'est les... Ouais.
Alors, ça c'est bien, parce qu'on apprend des choses.
Alors ça, ouais, ça fait partie de ce petit plus que je propose au lecteur, c'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je connais l'envers du décor et je connais aussi les petites feintes, et donc je vous propose de découvrir pas mal de trucs que peut-être vous savez pas. Et donc effectivement, là j'ai une équipe qui doit partir au plus vite et qui doit partir avec de l'argent, qui doit partir avec des bijoux. Et c'est sûr que quand vous prenez Air France et que vous allez à Roissy ou à Orly, il y a des contrôles partout. Par contre, si vous êtes capable de mettre un petit peu plus d'argent, vous avez les aéroports privés qui sont juste à côté au Bourget, où là on contrôle vite fait votre passeport et qu'on vous laisse passer sans vraiment contrôler ce qu'il y a dans votre valise. C'est le cas de ce qu'on a vu avec Air Cocaïne. Ils avaient cette habitude-là de passer dans les aéroports privés. Donc voilà, c'est plein de petites techniques, c'est plein de petits trucs. Je vous apprends comment braquer la salle des scellés du tribunal de grande instance.
Ça, c'est bien, ça.
Je vous apprends comment construire un lance-missile avec une bouteille. Là, dans le territoire, je vous apprends comment vendre du shit intelligemment. Parce que évidemment, commercialement, le shit c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle une matière courante. Et donc, il va falloir trouver comment quand on vend exactement la même chose, comment faire venir les gens chez vous. Alors, il y a plein de tactiques de vendeurs et on réalise que même les grands dealers reprennent leur cours à l'école de commerce parce que justement, ils ont besoin de savoir comment écouler de grandes quantités de matos. Et dans Surtention, je vous apprends aussi comment prendre en otage une famille, tout ça. Il y a plein de choses intéressantes si vous voulez devenir de vrais pervers. Donc voilà, je vous conseille ces lectures.
Et par rapport à ça, il y a une remarque assez intéressante aussi, parce que vous dites que le métier devient compliqué, parce qu'avec toutes les séries télé, tous les trucs comme ça, votre métier, il n'a plus de secret pour les criminels.
Alors de moins en moins. Et alors quand je vous dis que moi je vous révèle des secrets, je fais justement attention à pas faire ce que font les séries. C'est-à-dire que ce que je révèle, c'est des choses que, en tout cas, dans les criminels que je connais, dans les flics que je connais, c'est des choses que les gens savent déjà. Par exemple, à un moment donné, dans Territoire, ils arrivent dans un appartement, il y a eu un homicide. Et donc, il y a une stagiaire qui arrive et qui appelle l'identité judiciaire pour faire des prélèvements d'ADN et d'empreintes digitales. Et mon capitaine Coste lui dit qu'elle peut arrêter tout de suite, ça sert strictement à rien, parce que quand il est arrivé, la première chose qu'il a sentie, c'était une odeur de piscine. Donc, la piscine, c'est quoi? C'est une odeur de Javel. Et donc, il sait qu'ils ont regardé l'épisode 37 de la saison 6 des Experts. Il sait que les gamins, donc, ont passé l'appartement entier à la Javel. Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus d'ADN, on n'a plus d'empreintes papillaires. C'est la meilleure manière pour pas laisser de traces derrière vous, la Javel. Donc, voilà. Là, j'en parle, mais c'est parce que voilà, les séries, on avait déjà parlé et que c'est quelque chose qui est maintenant assez courant sur les scènes de crime.
Et du coup, ça a changé votre métier ou pas? Parce que on s'aperçoit que dans les des fois, les enquêtes sont résolues entre guillemets par le petit coup du hasard, la chance. C'est-à-dire que c'est
Ah, faut jamais mettre de côté le hasard. Il y a deux choses qu'on met pas de côté, c'est le hasard et la stupidité des criminels. Sinon, on serait bien en peine de résoudre autant nos enquêtes. C'était quoi ta question?
Ouais, c'est ça, c'est par rapport justement. Est-ce que le métier a évolué? Parce qu'en fait, les mecs sont plus.
Ouais, alors le métier évolue toujours et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut toujours révéler. En fait, on révèle rien parce que ils communiquent entre eux, les criminels, donc ils se donnent les bonnes techniques. Mais nous aussi, ça nous permet d'avancer toujours. Donc en fait, on a un coup d'avance, mais ils nous rattrapent, ils ont un coup d'avance, alors on les rattrape et on a un coup d'avance. Par exemple, pour les émeutes, on a réalisé qu'un flic réussissait approximativement à tenir en respect deux personnes, même énervées. Moi, une, c'est mon maximum. Mais voilà, un bon CRS, bien, bien bâti, tout ça peut gérer deux personnes. Mais on a surtout réalisé qu'un chien d'attaque, lui, pouvait tenir en respect une vingtaine de personnes d'un coup. Donc, pendant les émeutes, on a arrêté d'aller se faire casser la gueule. On est allé chercher des chiens, qui sont des chiens d'attaque. C'est pas du tout létal, et c'est probablement une des meilleures armes qu'on a. Donc les gamins se sont dit mince, ils ont sorti les chiens. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que eux, ils se sont mis à casser des bouteilles en verre et ils se sont mis à balancer des bris de verre. Ce qui fait que les chiens, ça leur coupait leur petit coussinet. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé acheter des tenues néoprènes de plongée et qu'on a commencé chez nous à coudre des petits chaussons pour nos chiens. Comme ça, les chiens pouvaient marcher sur les bris de verre. Et donc maintenant, on attend la réponse des gamins de savoir ce qu'ils vont faire maintenant pour aller à contrario de ça. Par exemple, on met en place les drones ces temps-ci. On essaye de démocratiser un peu les drones parce que très régulièrement sur le 93, il y a un sport national, c'est le piège. On appelle une équipe, on dit voilà, oui bonjour, je vous appelle. Il y a une femme qui est avec une poussette, elle est dans une rue, elle va se faire agresser par une dizaine de personnes, il faut venir. Généralement, cette rue, c'est une impasse. On sait très bien que s'ils utilisent le fait de la femme enceinte, c'est pour tirer sur notre ficelle sensible. Donc, obligatoirement, nous, on y va. Et la plupart du temps, on se retrouve dans une impasse. Eux, ils arrivent derrière, ils brûlent deux, trois poubelles, on est bloqué. Et là, ils commencent à nous tirer dessus ou ils commencent à nous balancer des cocktails Molotov. C'est ce qu'on appelle un piège. Donc, nous, on aime bien l'idée du drone qui va pouvoir partir à l'avance. Et qui va pouvoir prendre une photo ou deux de ce qui se passe sur place, des photos thermiques, et qui vont pouvoir nous dire, bah non, il n'y a pas une femme enceinte et un bébé, il y a 25 signatures thermiques et vous êtes attendu et c'est un piège. Donc on met en place ces drones, sauf que eux, ils ont déjà découvert que, vous savez, le petit stylo de prof d'histoire qui fait un point rouge, le petit stylo laser, bah, ils ont déjà découvert que s'ils avaient ce petit stylo laser, ils pouvaient directement le braquer sur la caméra et que en fait ça faisait une surtension et que ça flinguait l'œil de la caméra et donc que nous, on ne pouvait pas prendre de photos. Voilà, c'est une sorte de jeu de chat et de souris, de savoir qui aura la meilleure idée au meilleur moment. Et voilà, on ne sera jamais plus intelligent qu'en poursuivant des délinquants intelligents. Donc je ne dis pas que c'est un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux, bien au contraire, mais en tout cas, ça nous permet, nous, de jamais nous endormir sur nos lauriers. On sait que de toute façon, ils sont déjà en train de réfléchir à la prochaine connerie et que nous, il va falloir qu'on réfléchisse à comment parer à cette nouvelle délinquance.
Et le hasard, donc, vous y croyez? Moi, faut pas le négliger.
Non, il ne faut absolument pas négliger le hasard, non, non. C'est le coup de bol. On part en surveillance. Une surveillance, ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 3 jours. Le coup de bol, c'est que ça dure 1 heure et que justement on va surveiller le type et qu'il fasse exactement ce qu'on attend de lui. C'est sur une écoute téléphonique. C'est ce type-là qui, à un moment donné, va dire, oh, bah, si c'est comme ça, j'appelle sur ma seconde ligne. Et là, on se dit, voilà, c'est pour ça qu'on n'a aucune information. Il a une seconde ligne. Et donc là, on commence à essayer de le suivre, histoire d'avoir sa seconde ligne. Voilà, le hasard, non, c'est quelque chose qu'on met jamais de côté, évidemment.
Bon, il y a de la matière pour plein de livres. Pour finir, les remerciements, parce que je suis allé voir sur Facebook. Alors, j'ai lu le premier roman, j'ai vu qu'il y avait plein de remerciements. Moi, j'ai dit, tiens, c'est cool, il y a plein de remerciements. Et puis, j'ai vu que ça restait dans les romans. Puis, quand je suis allé faire un tour sur ça, la bonne blague, moi, je suis un bisounours avec un flingue et je fais des remerciements. Parlez-nous de ça, parce que ça fait partie du roman. Moi, j'aime bien. C'est assez rare, les remerciements dans les romans français, surtout les romans américains. J'adore commencer par les remerciements, moi. Puis après, je me tape le roman. En
écrivant des polars, j'ai réalisé que je connaissais très mal mon métier, parce que justement, un flic, c'est spécialisé. Donc, quand j'ai voulu parler des mineurs, à un moment donné, je parle d'un pédophile, et il a fallu que je me rapproche des mineurs pour comprendre mieux leur métier. Quand je parle des stupes, il a fallu que je me rapproche des stupes pour comprendre mieux leur métier. Pour la justice, pour la prison, en fait, j'ai découvert que mon métier, je le connaissais assez mal, parce que c'est un métier de spécialisation, et qu'à force de spécialiser, eh ben, en fait, on connaît que sa branche. Donc j'ai eu besoin de beaucoup de monde. J'ai besoin d'experts, j'ai besoin de professionnels, j'ai besoin de délinquants, j'ai eu besoin de maires et d'adjoints aux maires complètement dévoyés, j'ai eu besoin de salopards comme de héros. Et tous ces gens-là, enfin non pas les salopards,
Serge Dassault vous a filé un coup de main alors, pour vous expliquer comment on achète des voix.
D'autres que je peux pas citer évidemment parce que je les considère comme mes indics. Donc je protège et leur métier et leur identité. Mais voilà, ces bouquins-là sont tellement au cordeau de la réalité. C'est tellement exactement comme ça que ça se passe que j'ai vraiment eu besoin de tous ces experts, de ces professionnels et que je me vois pas ne pas les remercier. Et puis après, il y a ceux qui m'ont fait connaître, c'est-à-dire les petites librairies, les blogs. Et c'est vrai que maintenant, j'ai la chance d'être dans les grands salons de Mola. Mais il faut que je me souvienne aussi que voilà, qu'au début, je faisais des dédicaces dans des petites librairies qui voulaient bien m'accueillir et que je signais 3 livres et que j'étais super content. Et que sans eux, j'aurais jamais réussi à écrire 3 bouquins, à en faire des séries. Et donc, j'essaye de jamais oublier de là où je viens et de ne pas oublier ni les flics, ni les gens qui ont été des bonnes étoiles pour moi. Je trouve ça normal et puis même c'est même ultra plaisant de le faire. Et j'ai eu sur mon Facebook quelqu'un qui m'a dit 4 pages de remerciements, vous êtes vraiment un bisounours. Et je lui ai répondu, j'étais peut-être un bisounours, mais j'étais un bisounours avec un gros flingue, voilà, et que je l'attendais.
Merci Olivier Norek, merci d'être
merci
venu.
À vous.